On approche de la fin de nos petits prophètes. Je vous invite à vous tourner avec moi dans Malachie. Malachie 2:10. C'est un livre qui a été écrit à peu près en l'an 425 avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait penser que ce sont des thèmes anciens qui n'ont plus raison d'être étudiés aujourd'hui. Et pourtant, vous avez commencé à le voir en étudiant la première partie dimanche dernier, combien ce texte s'applique à notre culture, à notre société. Nous allons voir qu'il est d'une actualité brûlante. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur. Tu ne changes pas. Et malheureusement, Seigneur, il semble que l'homme ait toujours cette tendance au péché. Il ne change pas de ce point de vue. Sauf lorsque on vient à toi et que l'on te reçoit comme notre Sauveur, Seigneur et Sauveur. Et là, tu commences à nous transformer, Seigneur. Et pourtant, on voit encore dans le passage aujourd'hui que les problèmes qui sont décrits ne s'appliquent pas seulement au monde païen. Malheureusement, ils sont bien présents dans l'Église aussi. Les reproches qui sont faits aux prêtres de l'époque peuvent s'appliquer aux pasteurs, aux prêtres d'aujourd'hui. Les reproches qui sont faits au peuple qui vivait dans l'infidélité à Dieu et même cette infidélité qui affectait toute la société, les rapports les plus intimes du mariage jusqu'aux relations entre amis, Seigneur, cette infidélité, on voit combien elle est encore une tentation pour nous tous. Seigneur, pardonne-nous et merci de nous enseigner par ton Esprit Saint ce matin. Merci de nous reprendre là où nous devons être repris, de nous encourager là où nous avons besoin d'être encouragés, d'être enseignés là où la connaissance manque. Et Seigneur, que ton Esprit Saint vienne interpréter ces paroles à nos cœurs. Qu'elles ne demeurent pas des connaissances intellectuelles, mais que ton œuvre aille au plus profond de nous, Seigneur. En tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, merci de nous toucher tous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre aussi nos frères et sœurs dans les autres églises de cette région, de cette ville, de cette région qui t'adore en esprit, en vérité. Les différents ministères, Seigneur, fais-les grandir. Donne-leur des bases solides sur ta parole et que l'amour de Christ y soit manifeste, Seigneur. Tu nous as bien dit, Seigneur, c'est à cela, l'amour que nous avons les uns pour les autres, que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour les enfants qui sont enseignés ce matin. Bénis les moniteurs, les monitrices. Et que dès le plus jeune âge, ils aient cette relation avec toi, qu'ils sachent que tu es là pour eux, que tu as une vie pour eux. On prie pour le ministère de ta parole auprès des enfants. Amen. Amen. Tenu a donc commencé la semaine dernière, c'est en disant que Malachie, ce qui veut dire « mon messager », parle à la période du retour d'exil. C'est un des prophètes post-exiliques, comme on dit, pour impressionner les profanes. Ça veut simplement dire qu'ils ont parlé après l'exil. Il y avait Agée, Zacharie, que nous avons étudié longuement, et maintenant Malachie. Et on voit combien il doit reprendre la société. Le temple a été reconstruit, la ville est rebâtie. Et puis, c'est un peu comme si les gens commencent à s'ennuyer de leur foi. Ils n'ont plus le zèle de ceux qui sont revenus pour servir le Seigneur au prix de leur vie, en abandonnant tout ce qu'ils avaient pu accumuler comme richesse, comme bien-être à Babylone. Et ça, c'est un danger qui nous guette tous aujourd'hui, c'est d'être plus préoccupés par notre confort matériel que par notre relation avec Dieu. Dieu qui peut nous appeler à faire des choses pour lui et on se contente d'un train-train chrétien. Un train-train où on va au culte peut-être le dimanche, on donne la dîme, mais on n'est plus très excité par notre relation avec Jésus, avec Dieu. Et ça, c'est le danger qui nous guette si nous n'y prenons pas garde, si nous ne sommes pas repris par la parole de Dieu, ou si nous l'écoutons d'une oreille distraite, ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre. Il y avait une remise en question de l'amour de Dieu. Il se disait, bof, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et on a parlé du fait que Dieu avait préféré Jacob à Ésaü. Mais les hommes voyaient aussi que les païens prospéraient. C'est une question qui revient toujours. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils alors qu'il y a des païens qui prospèrent devant nous? Il y avait aussi des tricheries. On verra probablement la semaine prochaine qu'ils n'offraient pas ce qu'ils avaient de meilleur à Dieu. Et nous aussi, on peut lui donner un peu les miettes de nos ressources en temps, en argent, en relation avec les frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui montre en fait qu'on n'est pas vraiment en relation avec Dieu. Quand on connaît Jésus, quand on connaît vraiment qui il est, on n'a pas envie de lui donner les miettes. Et c'est vrai qu'on a des besoins personnels, on a des familles à nourrir, on a des occupations. Et tout ça, ça peut être fait, mais avec une priorité sur la relation avec Dieu. Et puis, verset 13 du chapitre 1, il était dit, « Vous dites, quel ennui, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. » Vous dites, quel ennui. Est-ce que vous vous ennuyez à l'église? Ou peut-être vous vous ennuyez pas, mais vous êtes content parce que vous retrouvez un tel et un tel, et après vous pouvez discuter, vous pouvez aller à la plage ensemble l'été, vous pouvez faire des activités. C'est un signe toujours inquiétant lorsqu'on réalise qu'on s'ennuie avec les choses de Dieu. Est-ce que la lecture de la Bible, et là encore une fois chacun est à même de voir qu'est-ce qui lui convient, mais il faut être engagé dans la lecture de la Bible. Ça peut n'être qu'un verset par jour, et c'est très bien même un seul verset qu'on médite. On avait expliqué dans le psaume 1 qu'on ne devait méditer la parole de Dieu que deux fois par jour, le jour et la nuit, seulement deux moments de la journée. On doit essayer, autant qu'on peut le faire, d'avoir au fond de nous cette constante présence de Dieu avec qui on parle, on communique. Il donnait les miettes, il donnait les bêtes malades que n'aurait jamais osé donner au gouverneur. Et puis, les prêtres aussi était repris violemment ou fortement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous, la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Il parlait même de jeter les excréments des animaux sacrifiés qui ne devaient pas être brûlés, de les jeter à leur face. Si ça, c'est pas violent. Et on va voir que cette attitude de tiédeur était quelque chose qui répulse, que l'Éternel ne pouvait pas avaler. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus disait à l'église de Laodicée, « Parce que vous n'êtes ni froid ni bouillant, je vous vomirai. » La Bible ne mâche pas ces mots. Nous, on a tendance à essayer d'avoir un langage très châtié lorsqu'on est en compagnie des autres chrétiens. Souvent, c'est moins châtié lorsqu'on est au travail ou même des fois en famille, malheureusement. Mais Dieu ne veut pas de tiédeur dans nos cœurs. Et quand j'avais lu pour la première fois ce verset dans l'Apocalypse, je me disais, c'est bizarre que Jésus dit qu'il préfère qu'on soit froid, si on n'est pas bouillant, plutôt que tiède. Parce que dans mon esprit cartésien, je me disais, tiède, c'est à mi-chemin entre froid et bouillant. Mais quand on y réfléchit bien, si on est le danger lorsqu'on est tiède, c'est qu'on pense que tout va bien. Et ça rappelle l'histoire de la grenouille. Si on jette une grenouille, j'ai jamais fait, je vous promets, vivante dans de l'eau bouillante, elle va pas rester dans l'eau bouillante, elle va arriver à avoir assez d'énergie pour trouver appui sur une paroi, quitte à se brûler la pâte, mais elle va sortir de là. Alors que si on la met dans l'eau tiède et qu'on commence à mettre la chaleur, là, elle va périr. Et nous aussi, on peut périr si on est tiède. Si on est froid, tous les espoirs sont permis. C'est peut-être parce qu'on n'a rien, on n'a jamais entendu l'Évangile. Et lorsqu'on amène l'Évangile, là, on peut voir des conversions fantastiques, des conversions radicales plutôt que fantastiques. Radicales, et on voit des gens qui sont à peine convertis, qui partent comme missionnaires, qui sacrifient leur carrière pour servir le Seigneur. Et cette tiédeur, je crois que c'est Tonio qui cite souvent cet auteur anglais dont le nom m'échappe maintenant, qui disait que le christianisme n'est pas une religion qui a failli, mais c'est une religion qui n'a pas été vraiment essayer et vérifier. Et on peut avoir une connaissance intellectuelle de la Bible, c'est important aussi, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait une expérience de la vie. Alors c'est vrai que souvent on dit « faites attention aux expériences », et il y a des mouvements chrétiens où tout est expérience, effusion, larmes, émotions, et puis très peu de paroles. Ils ne connaissent pas vraiment bien la parole de Dieu. Et puis à l'inverse, on peut être plein de connaissances intellectuelles, théologiques, et puis ne pas avoir d'émotions et être froid avec les autres comme une porte de prison. Et comme toujours dans la foi chrétienne, la relation avec Jésus, il y a toujours un équilibre à avoir. Mais Jésus disait dans Jean 7, 17, « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Autrement dit, pour savoir si la Bible est vraie, il faut la mettre en application. si on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on peut aller faire des études de doctorat en théologie, on restera loin de Dieu. Et ce prophète mettait en garde la société qui était revenue à Jérusalem, aussi bien les fidèles, les croyants, que les mêmes, les prêtres, qu'ils avaient un grave problème. Et à partir du chapitre 2, verset 10, jusqu'au chapitre 2, 3, verset 15, il va montrer combien le peuple, y compris les prêtres, est coupable. On va lire ensemble les versets 10 à 16, je lis dans la version second 21. « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles, l'un envers l'autre, en violant l'alliance de nos ancêtres ? Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Il parle là du mariage. Et combien l'engagement du mariage, qui est une relation établie par Dieu, qui doit vraiment être un endroit où un homme et une femme sont dans une relation avec Dieu au centre. Mais ils avaient méprisé cet engagement. Et Malachie les reprend. Il dit, n'avons pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres ? Le mot infidèle revient dans les lignes qu'on a lues plusieurs fois et on le retrouve aussi sous la forme de trahir, de trahison. Lorsqu'on est infidèle, on trahit, lorsqu'on trahit, on est infidèle. C'est ce que veut dire le mot trahir, hein, c'est surprendre l'autre en ne respectant pas l'engagement, en ne montrant pas de fidélité à nos paroles, à nos engagements. N'avons-nous pas tous un seul Père ? Alors il y a la doctrine de la paternité universelle de Dieu. Certains disent, oui, on est tous des enfants de Dieu. En fait, Jésus a expliqué qu'on était soit des enfants de Dieu, soit des enfants du diable. On est tous des enfants de Dieu dans le sens où c'est lui qui nous a créés. Il est Père par création. Et certains aussi pensent que notre Père, c'est, dans ce passage, peut-être qu'il voulait parler d'Abraham, le Père de la nation juive et aussi la nation arabe. Mais en fait, le fait qu'il parle de création montre bien que c'est Dieu le Père qui nous a créés. Et donc, la question, c'est, au vu du fait que nous qui sommes des croyants, nous avons un Père, nous avons le Père Tout-Puissant, et devant ce Dieu Tout-Puissant, comment est-ce qu'on en arrive à violer l'alliance qu'on avait faite avec lui, l'alliance de nos ancêtres ? Dans le monde anglo-saxon, je crois aujourd'hui encore, on fait jurer les gens qui vont témoigner devant une cour de justice, on les fait témoigner, plutôt mettre la main sur la Bible pour promettre qu'ils disent la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est intéressant de constater qu'après des siècles de déchristianisation, il y a encore ce respect devant Dieu. Et là, Malachie dit, on a Dieu pour Père et pourtant, on ne le respecte pas. Il dit, la tribu de Judas s'est montrée infidèle à Dieu et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. Donc Israël, c'est les 12 tribus et Jérusalem, bien sûr, c'est la ville du grand roi, c'est la capitale, c'est la ville qui est aujourd'hui encore le centre des informations. Lorsqu'il se passe quelque chose dans le monde, il y a toujours des ramifications avec Jérusalem. C'est intéressant de constater que la carte qu'on vous montre souvent aux informations du soir, c'est la carte qui est à l'arrière de votre Bible. Si votre Bible a des petites cartes du monde, de Jérusalem, du peuple d'Israël, plutôt d'Israël. Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il a épousé la fille d'un dieu étranger. Là, il est question, et puis il ajoute au verset 12, « Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob, celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. » Là, il est question des mariages mixtes, des mariages des croyants, des juifs avec les païens. C'est Dieu qui a institué le mariage, c'est lui qui est consacré à l'Éternel. Le mariage, c'est un lien que l'on conclut, que l'on fait, un engagement que l'on prend devant Dieu. C'est donc un engagement qui est sacré en ce sens. Et là, lorsqu'il est dit « il a épousé la fille d'un dieu étranger », on pourrait parler au pluriel, ils ont épousé les juifs qui se sont montrés infidèles, ont épousé les filles ou les adoratrices de dieux païens. Et on sait par d'autres passages, notamment dans Néhémie, dans Esdras, qu'en revenant après le retour d'exil, les hommes étaient prêts à laisser leurs femmes pour épouser des étrangères qui adoraient des divinités païennes. Et ainsi, ils amenaient l'idolâtrie dans la nation. Ça s'est passé tout au cours de l'histoire biblique. Dès la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 7, il est dit que les fils de Dieu épousaient les filles des hommes. Alors certains pensent qu'il s'agissait peut-être, les fils de Dieu, c'était des anges qui étaient venus trouver des femmes parmi les hommes et qui les avaient épousées. Mais Jésus nous dit que les anges ne se marient pas dans Matthieu 22, 30. Et il est beaucoup plus probable que cette référence fait allusion à la rupture de la ligne directe qui allait amener au Messie, la ligne pure de Seth, qui s'était intermariée avec la ligne impure de Caïn. Un autre passage bien connu où on voit comment les Juifs épousent des païennes et introduisent l'idolâtrie en Israël, c'est le passage des Nombres, la fameuse histoire de Balak, le roi de Moab, qui avait embauché ce prophète bizarre, Balaam, qui reconnaissait dans Dieu un grand Dieu, mais pas le seul Dieu. Et vous souvenez que le roi demandait à Balaam de maudire le peuple juif, mais que malgré ses efforts, Balaam n'arrivait pas à avoir des résultats. Il savait qu'en fait, il ne pouvait pas parler contre le peuple juif. Et puis, on sait par un passage, ça c'est dans Nombre 22 à 24, 25, et puis un peu plus loin, Nombre 31 nous dit qu'en fait, c'est lui qui a imaginé le stratagème qui a marché, c'était d'amener des filles de Moab pour qu'elles séduisent et qu'elles épousent les fils d'Israël et qu'elles amènent ainsi l'idolâtrie de Moab en Israël. Dans 1 Roi 16, on voit que l'idolâtrie des Phéniciens a été introduite dans le royaume du Nord lorsque Ahab, le roi, a épousé Jézabel, la fille d'Et-Baal, qui était un prêtre idolâtre, qui était devenu roi de Tyr et de Sidon. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est passé tout le long de l'histoire biblique. C'est quelque chose qui se passait au temps de Malachie. Et encore une fois, si un jeune juif voyait une jeune païenne, une belle jeune païenne qui lui plaisait, il se débarrassait de son ancienne femme et il épousait la femme païenne. C'est ce qu'on appelait la répudiation. On se débarrassait, on la mettait de côté. Et Paul, dans 2 Corinthiens 6, 4, nous mettait en garde les Corinthiens en leur disant de s'abstenir de mariage pour les chrétiens, de mariage avec des païens. C'est là qu'il disait dans 2 Corinthiens 6, 14, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Le chrétien est appelé à être dans le monde, mais le chrétien n'est pas appelé à être du monde, c'est-à-dire il n'est pas appelé à épouser, à embrasser, à faire sienne la philosophie qui est dans le monde. On a eu la joie de voir notre pasteur ami, grand commentateur Dave Guzik à la conférence. Il a une très bonne façon d'expliquer cela. Il a dit « Si le bateau n'est pas dans l'eau, il n'est pas un bateau. Mais si l'eau est dans le bateau n'est plus un bateau. » C'est-à-dire que nous devons être dans le monde sans nous laisser submerger par les valeurs du monde. Nous devrions être ceux qui influencent le monde. Et bien trop souvent, c'est l'inverse qui se produit. Et ça s'applique, bien sûr, dans ce passage de 2 Corinthiens 6, dans les relations de toute nature, que ce soit des relations de business, dans les affaires, dans le monde des affaires. Il est fortement proscrit, plus que déconseillé, d'avoir un associé dans votre entreprise qui n'est pas chrétien, si vous êtes chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il va vous conduire à peut-être un peu tricher sur les fournitures, tricher dans vos déclarations aux impôts, ou même si vous ne le faites pas, il va y avoir une crise. Et encore plus, cela s'applique à la relation la plus intime qu'on a après celle qu'on doit avoir avec Dieu, celle de la relation dans le mariage. La Bible nous explique clairement que nous ne devons pas nous marier avec un inconverti. Et bien souvent, on se dit, mais je l'aime et je vais l'amener au Seigneur. Trop souvent, c'est l'inverse qui se passe. La personne qui n'est pas convertie va peut-être montrer un certain intérêt, parce qu'on est dans la phase où on veut plaire à l'autre, mais au bout du compte, une fois que peut-être que le mariage sera passé, il y aura moins d'enthousiasme pour aller aux réunions de culte, aux études bibliques, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où ce soit la personne chrétienne qui commence à se refroidir et qui s'éloigne de Dieu. Souvent, c'est lorsque les enfants arrivent qu'on voit en fait que le papa ou la maman qui n'est pas chrétien n'a aucune envie de voir leur enfant endoctriné, ou alors ils laissent faire, mais ils font savoir aux enfants que ça c'est la foi de maman, mais c'est pas la logique de papa qui est rationnelle. Et malheureusement, encore une fois, quand on parle de ces sujets de divorce, de mariage, on veut le faire, et je veux le faire bien sûr avec tact, parce que je sais qu'il y a tous les cas de figure dans un groupe de cette taille. Je suis sûr qu'il y a déjà plein de situations, de personnes qui peut-être fréquentent des inconvertis. Et donc, lorsqu'il s'agit juste de fréquentation, il faudrait être radical et stopper et faire confiance à Dieu. Souvent, et on en a déjà parlé en étudiant Zacharie, c'est intéressant comment ces thèmes reviennent. Et je veux que vous sachiez que je ne suis pas en train de viser telle ou telle personne et qu'on reparle de cette alliance disparate, cet attelage disparate avec les incroyants, parce que c'est simplement Jésus, c'est la Bible plutôt, c'est le Saint-Esprit qui ramène ce sujet sur le tapis, parce qu'il sait que c'est un sujet très important. Notre bien-être spirituel, émotionnel et même physique dépend d'une union selon Dieu. Il faut faire attention donc de fréquenter un inconverti. Et je disais souvent, les jeunes personnes ou moins jeunes qui commencent à faire ce genre, entrer dans ces relations ou ces attirances, c'est souvent parce qu'ils se disent, en fait, si tu voyais les filles à mon église, ou si tu voyais les gars à mon église, il faut que j'aille voir ailleurs. Hein. Faut que je vais aller un peu en boîte de nuit pour voir d'autres modèles. Et c'est très dangereux parce que lorsqu'on fréquente un inconverti, il y a déjà une attirance émotionnelle, une relation émotionnelle qui se met en place, qu'il est de plus en plus difficile de rompre. Et encore plus si cette relation comporte un aspect sexuel, s'il y a des relations sexuelles en dehors du mariage, il se fait un lien encore plus fort entre les deux personnes, dont il est extrêmement difficile de sortir. C'est intéressant de ce que lorsque on recherche ou on prie pour trouver quelqu'un, souvent c'est l'apparence extérieure qui va être le facteur clé. Et surtout dans notre société, inspiré ou encouragé par Hollywood, on veut le parfait bel homme, la parfaite belle femme. Et c'est vrai que même pour les top modèles, les mannequins, les Miss Univers et tout ça, il y a toujours quelqu'un qui est encore plus beau, encore plus malin, encore plus charmant que l'autre personne. Et c'est intéressant de ce que on sait que l'homme est créé de il y a trois parties dans l'homme. Il y a l'esprit, l'âme, c'est-à-dire le monde des émotions, de la volonté, et puis le corps, l'enveloppe de tout ça. Nous, on a tendance dans notre société à renverser l'ordre des priorités en se disant que ce qui compte le plus, c'est le corps. C'est pour ça qu'on fait du sport, c'est pour ça qu'on marche en essayant de faire 10 000 pas tous les jours. C'est pour ça qu'on soigne son corps, qu'on achète des vêtements, des chaussures, on veut plaire extérieurement. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller physiquement, ne pas soigner notre corps. Dieu nous l'a confié, c'est un outil qui nous permet de travailler pour lui, de vivre, d'avoir des relations avec les autres, de pouvoir parler, de pouvoir voyager. Mais l'important, l'essentiel, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et lorsque vous cherchez, pour les filles, un homme, pour les hommes, une femme, l'aspect extérieur ne doit pas être primordial. Alors bien sûr, vous n'allez pas prendre quelqu'un que vous ne pourriez pas embrasser parce que... Mais souvent, on accorde une trop grande importance à cet aspect extérieur et on néglige la personnalité, la spiritualité de l'autre. Et c'est pour ça qu'il est si bon de se fréquenter dans un cadre où on peut voir la personnalité de l'autre. C'est ce qui le fait vivre vraiment. Donc l'église peut être un très bon endroit. On a eu des gens qui se sont rencontrés en faisant la vaisselle, humblement, et ils ont aujourd'hui une famille de 3 enfants, ils ont un ministère, et on se réjouit. Mais c'est vrai qu'en voyant les gens agir au milieu des chrétiens, en servant Dieu, on peut savoir qu'est-ce qui les fait vraiment marcher, qu'est-ce qui les motive vraiment dans la vie. Et donc, l'Éternel a institué le mariage, il veut qu'on le respecte. Si quelqu'un agit de cette manière, en épousant des inconvertis, je mets en langage d'aujourd'hui un peu, et puis il est dit, l'Éternel supprima des tentes de Jacob, celui qui veille, celui qui répond, celui qui présente une offrande à l'Éternel. On peut penser qu'il s'agit de parler des différents stages ou des différences. Celui qui veille, c'est celui qui vient de s'éveiller. Celui qui... Je ne sais pas où je suis là. Celui qui... Réponse, c'est celui qui peut parler. Celui qui présente une offrande, c'est le fils adulte qui est assez grand pour pouvoir offrir un sacrifice. Ça, c'est une première façon de voir ce verset, dire que si quelqu'un de la naissance à l'âge adulte est infidèle à Dieu, Dieu va le supprimer des tentes de Jacob, c'est-à-dire l'éloigner de sa présence. Ou alors on peut penser qu'il veut dire, l'auteur veut dire qu'il va enlever toute sécurité Parce que celui qui veille, c'est la sentinelle. Celui qui répond, c'est la sentinelle un peu plus loin. Et puis, celui qui offre le sacrifice, c'est le prêtre. Quoi qu'il en soit, c'est vivement déconseillé de trahir l'engagement et de ne pas respecter le mariage. Et puis, il leur reproche une deuxième chose. Maintenant, il parle du divorce avec les femmes juives, du verset 13 à 16. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention, il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. C'est le prophète Malachi qui dit, par la façon dont vous traitez vos femmes en les répudiant, vous couvrez l'autel de leurs larmes. Elles viennent en sanglots, elles sont dans la détresse de la façon dont leur vie, à quoi elles sont réduites. Et Dieu, quand on agit ainsi avec nos épouses, ne peut pas regarder nos offrandes. Il ne peut rien accepter de vos mains. Autrement dit, le culte du mari devient odieux à l'Éternel par l'injure qui est faite à sa femme. Et ça doit nous parler, nous maris aussi. C'est que la relation avec nos épouses est une relation sacrée. Et encore une fois, quand je prêche la parole, quelque part, j'aime bien qu'elle me parle aussi directement. Et est-ce que je traite toujours Nancy de la façon dont je devrais la traiter ? Non. Et si vous lui demandez, elle pourra vous expliquer. Chut. Mais est-ce que nous traitons nos épouses avec la patience, la douceur, l'amour, la gentillesse, au prix de notre vie ? Je dirais, pour être gentil avec nous tous, pas toujours. Pardon, Nancy. Et vous dites, pourquoi ? Verset 14. C'est une chose qui revient dans ce livre du prophète Malachi, c'est que les gens sont tellement devenus tièdes qu'ils ne voient pas leurs problèmes. Et ça aussi, c'est grave pour nous, lorsque, en fait, on s'est attiédi, on n'est plus... Les choses spirituelles nous barbent un peu. C'est terrible de dire ça. Si on n'est pas chaud bouillant, on va refroidir. On va devenir tiède. On va penser qu'on est OK, mais... Et donc, on ne voit même pas les raisons pour lesquelles on devrait faire plus. Vous dites, pourquoi ? Et il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. La femme de ta jeunesse. À l'époque, on se mariait jeune. Aujourd'hui, on peut avoir des mariages plus tard, mais parce qu'on attend d'avoir une situation, etc. Mais c'est une très belle expression, la femme de ta jeunesse. Ça veut dire qu'on est encore avec elle. Et comme je disais il n'y a pas très longtemps, ce n'est qu'en le vivant qu'on voit, et en faisant l'expérience, qu'on voit le bonheur d'une relation de mariage qui dure. On a fêté les 41 ans, 43 de mariage. Nous, le 3 février, ce sera... On s'est mariés en 78, ça fera 42, 41. Et il y a des choses une intimité, une connaissance de l'autre, qui peut sembler des fois ennuyeuse. Elle peut finir mes phrases avant que j'aie terminé, Nancy. Mais il y a une expérience, une vie en commun, toutes ces choses-là qui sont très, très bonnes. Et... pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Certains pensent qu'il s'agit là, verset 15, de l'histoire d'Abraham, à qui Dieu avait promis une postérité et qui, ne voyant rien venir, avait laissé sa femme Sarai lui suggérer, faire ce qu'elle lui suggérait, à savoir avoir des relations sexuelles pour avoir un enfant avec l'esclave égyptienne, Agar. Et mettant un peu de côté, au moins temporairement, Sarah à cause de sa stérilité. Un seul l'a fait, on peut penser que c'est lui. Et pourquoi? Au moins, c'est parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Donc il n'était pas coupable comme le reste des hommes qui trahissent la femme de leur jeunesse et les laissent tomber pour trouver quelqu'un de plus jeune ou de plus attrayant. Le danger, c'est que lorsqu'on commence, on ait toujours cette possibilité de dire « Bon, mais si ça ne marche pas, il y en a d'autres », et de recommencer le cycle. Et verset 16 est très fort, « Car je déteste la répudiation, ou je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers, veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Le divorce, c'est un sujet douloureux que Jésus lui-même a abordé dans Matthieu. On va lire un peu quelques passages de Matthieu pour terminer. Matthieu 5, 31, il a été dit, ça c'était dans le Deutéronome 24, que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Là encore, il faut prendre en compte toutes les situations. Et dans Jésus a précisé dans Matthieu 19 les conditions dans lesquelles ce divorce était toléré. Matthieu 19, 8. C'est les pharisiens qui viennent tendre un piège à Jésus et lui demandent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Il faut savoir qu'il y avait un enseignement parmi les rabbins, différentes écoles de rabbins, qui disaient qu'on pouvait laisser tomber sa femme si elle commettait quelque chose de déplaisant, comme brûler le rôti. Sérieusement, il y avait des gens. Les gens sont prêts à n'importe quel motif pour faire ce qui est mal devant Dieu. Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit, l'auteur du Deutéronome humain, a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Et ses disciples lui répondent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux pas se marier. Il leur répondit, tous ne se comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc là, visiblement, c'est pas le souhait de Dieu. Dieu a toujours horreur du divorce parce qu'il sait les impacts négatifs que ça a sur l'homme, sur la femme et sur leurs enfants. Mais dans le cas de l'adultère commis par l'un d'autre, l'autre est libéré, peut être libéré. Il n'est pas obligé de divorcer, mais il peut divorcer de sa femme qui a commis l'adultère. Et bien sûr, lycée de Versailles, vice-versa, la femme peut divorcer de son mari adultère. Et le divorce, c'est... On dit que Dieu unit l'homme et la femme et qu'ils ne font plus qu'un. Donc le divorce, la séparation, ça, c'est comme deux morceaux de bois qui ont été collés avec une super glue et qu'on essaye de séparer. Il y a des échardes, il y a des déchirements de tous les côtés. Et la psychologie nous dit qu'en fait, les enfants qui... on n'est pas là pour faire un cours de psychologie ni de sociologie. On dit qu'en France, la mère garde les enfants dans 71% des cas, que la garde alternée n'est effectuée, c'est des données de 2002, prend toujours du temps à analyser ça. La garde alternée, elle n'existe que dans 17% des cas. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui vivent sans influence paternelle ou sans influence maternelle. Et globalement, les enfants des parents divorcés ont presque deux fois plus de risques, ça ne veut pas dire que c'est automatique, de vivre des éléments négatifs, comme des problèmes à l'école ou eux-mêmes ayant des divorces plus tard. La bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces enfants ne rencontrent pas ces problèmes. Mais, encore une fois, ce n'est pas la volonté de Dieu, pas parce qu'il veut, nous forcer à vivre dans des circonstances qui ne sont pas épanouissantes, mais c'est parce qu'il a, un plan et que quand l'homme va contre ses plans, il y a souvent des circonstances. Alors, encore une fois, ne soyez pas accablés si vous êtes dans ces situations de divorce, de remariage. Une autre raison pour laquelle le divorce paraît légitime, c'est lorsqu'il y a de la violence physique, au moins peut-être pas le divorce, la Bible ne dit pas que c'est légitime, mais au moins la séparation, si vous avez un mari qui vous maltraite, qui vous brutalise. Encore une fois, le fait que quelque chose est légal ne veut pas dire que c'est légitime devant Dieu. Et là, encore une fois, il y a besoin de conseils pastoraux dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut donner des conseils, mais avec beaucoup d'amour, de compassion, de sagesse, sans mettre un cadre qu'on applique à tout le monde brutalement, en pouvant faire beaucoup de mal, en repoussant les gens loin de Dieu. Non, il faut venir à Dieu et lui demander son aide dans toutes ces situations. Et donc, c'était un des aspects qui faisait que le peuple s'était éloigné de Dieu et les conséquences étaient qu'il ne respectait pas les engagements du mariage, soit en épousant des inconvertis, soit en divorçant d'avec les croyantes. J'aime bien les derniers mots. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Il est question aussi de couvrir son habit de violence. Dans le livre de Ruth, on voit que Boaz, lorsqu'il a voulu épouser Ruth, qui était la belle-fille de Naomi, je vais y arriver. Heureusement, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Boaz avait mis sa couverture, il avait couvert de son habit la femme qu'il voulait épouser. Et donc, il y avait cette façon de proposer à une jeune fille, c'était de la recouvrir de votre manteau. Alors maintenant, si vous avez froid et qu'un jeune homme vous passe sa moumoute, doudoune plutôt, Ne pensez pas que c'est une déclaration de mariage, ça pourrait l'être. Et donc là, c'était un habit de violence, parce qu'au lieu d'amener la douceur, le réconfort, la protection que représentait le manteau, en fait, c'était comme si on arrachait et la personne se retrouvait pratiquement nue, au froid, seule, dans la solitude. Veillez sur votre esprit, ne commettez pas cette trahison. Encore une fois, si on veille sur notre esprit, c'est-à-dire si on cherche à être près de Dieu dans notre relation avec lui, il va nous guider. Certains sont appelés à être célibataires. Si ce n'est pas votre cas, faites confiance à Dieu pour trouver la personne qu'il a pour vous. Si vous prenez les choses en main et prenez quelqu'un d'autre, non seulement la personne qu'il avait prévue pour vous va vous rater, mais vous allez rater la personne qu'il avait prévue pour vous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est toujours d'une actualité brûlante. On le voit dans notre société, on le voit même parmi nous. Et Seigneur, je te prie vraiment d'encourager tous ceux qui sont passés par le divorce. Merci de les bénir, de les encourager, de les assurer que tu prends soin de leurs enfants. Et Seigneur, on te remercie parce que tu as de bons plans pour chacun, Seigneur. Aide-nous à entrer dans ces plans, à veiller sur notre esprit, à veiller à ce que nous faisons. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.